Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans La naissance de la pensée scientifique, Carlo Rovelli examine la figure d'Anaximandre de Milet, penseur grec du VIe siècle avant notre ère et disciple de Thalès. Ce bref essai relève à la fois de l'histoire des sciences, de la philosophie et de la vulgarisation savant. Son propos ne consiste pas à présenter Anaximandre comme un savant moderne ayant devancé toutes les découvertes ultérieures. Rovelli cherche plutôt à identifier un geste intellectuel décisif, expliquer les phénomènes par des causes naturelles, proposer des hypothèses discutables et corriger les idées héritées, à partir de fragments rares et de témoignages postérieurs. Il reconstitue avec prudence plusieurs intuitions cosmologiques attribuées aux Milésiens, notamment une Terre suspendue dans l'espace et le principe de Apeiron. Le livre élargit ensuite son regard vers la formation de l'esprit scientifique. Il défend l'idée que le progrès du savoir dépend moins de certitudes définitives que d'une critique féconde, capable de préserver les acquis tout en les soumettant à examen. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, Anaximandre comme origine symbolique de enquête rationnelle sur la nature. Rovelli place Anaximandre au commencement symbolique de la science occidentale parce que celui-ci cherche les raisons des phénomènes dans le monde naturel. Cette orientation change profondément le statut d'une explication. La pluie, les éclairs. Les mouvements célestes ou la formation des vivants ne relèvent plus seulement de volonté divine ou de récits sacrés. Ils deviennent des problèmes que observation et le raisonnement peuvent tenter de résoudre. Le livre ne prétend pas que les Grecs ont inventé à eux seuls toute rationalité, ni que les hypothèses antiques étaient correctes selon les critères actuels. Il met en valeur une transformation de méthode, la nature est supposée intelligible par elle-même. Cette supposition rend possible la confrontation entre hypothèses, observation et objection. Pour Rovelli, l'importance de Anaximandre réside donc moins dans un catalogue de résultats que dans une nouvelle manière de poser les questions. Une théorie peut être inexacte sans être dépourvue de valeur historique, si elle fournit un cadre explicatif naturel et exposé à la critique. Le lecteur est ainsi invité à distinguer la science comme corpus provisoire de connaissances et la science comme pratique collective de l'investigation. Cette distinction évite de juger Anaximandre uniquement à partir de erreurs que les savoirs postérieurs ont rectifiées. Deuxièmement, une terre soutenue par rien et la rupture avec les cosmologies traditionnelles. Parmi les hypothèses les plus frappantes étudiées dans le livre figure celle d'une terre qui ne repose sur aucun support matériel. Dans de nombreuses cosmologies anciennes, le monde terrestre devait être porté par une base, une colonne, une masse ou un être fabuleux. Anaximandre rompt avec cette nécessité intuitive en concevant la terre comme demeurant à sa place parce qu'aucune direction ne possède de privilège pour la faire tomber. Même si sa représentation précise du cosmos ne correspond pas à l'astronomie moderne, le raisonnement manifeste une avancée conceptuelle importante. Il remplace une réponse fondée sur une régression sans fin, quel support soutient le support suivant, par une explication fondée sur l'équilibre et la symétrie. Rovelli utilise cet exemple pour montrer qu'une innovation scientifique requiert souvent d'abandonner une évidence familière. Il ne suffit pas de mieux observer, il faut parfois modifier les catégories qui organisent observation. Le cas de la Terre suspendue illustre aussi le rôle de imagination théorique. Une idée apparemment étrange peut devenir rationnellement préférable si elle élimine une difficulté logique et ouvre une description plus cohérente du monde. Le livre rapproche ainsi Audace de Anaximandre d'une disposition durable de la recherche acceptée que les images les plus rassurantes du réel puissent être révisées. Troisièmement, Apeiron pensait une origine indéterminée plutôt que choisir un élément connu, le concept de Apeiron constitue un autre centre de gravité du livre. Alors que Thalès associait le principe premier à eau, Anaximandre aurait proposé un principe illimité et indéterminé, distinct des éléments visibles. Cette idée répond à une difficulté philosophique concrète si un élément particulier était origine de tout. Comment expliquer la coexistence et le conflit des contraires, tels que le chaud et le froid ou le sec et le humide ? Un principe non déterminé peut, dans cette perspective, engendrer les réalités opposées sans se confondre avec une seule entre elles. Rovelli ne présente pas Apeiron comme une anticipation directe de la physique contemporaine. Il y voit plutôt une opération intellectuelle remarquable qui consiste à ne pas limiter explication à ce qui est immédiatement perceptible. Le réel peut exiger des concepts abstraits, construits pour rendre compte de la diversité observée. Cette leçon reste importante dans les sciences, les entités théoriques, ne sont pas de simples inventions arbitraires, mais des outils dont la fécondité dépend de leur pouvoir explicatif et de leur compatibilité avec les faits. En analysant Apeiron, l'ouvrage fait aussi apparaître la proximité entre physique naissante et interrogation métaphysique. Chez Anaximandre, comprendre la matière, le changement et ordre du cosmos forment un même problème. Quatrièmement, Respecter Thalès tout en le contredisant la règle de progrès mise en avant par Rovelli, la thèse la plus générale de Rovelli concerne le rapport de Anaximandre à son maître Thalès. Le progrès intellectuel ne procède ni d'une vénération qui interdit toute objection, ni d'un rejet systématique du passé. Anaximandre hérite d'une première recherche rationnelle sur le monde, mais il transforme certaines de ses réponses. Cette double attitude, continuité et correction, représente pour Rovelli le moteur de la science. Une théorie antérieure offre des questions, des concepts et parfois des résultats utiles. Elle doit cependant demeurer contestable car son autorité ne garantit pas sa vérité. Le livre donne ainsi une lecture historique de la méthode scientifique qui dépasse les procédures formelles de laboratoire. La critique est une pratique culturelle, elle suppose de reconnaître la valeur du travail précédent tout en assumant le risque de montrer ses limites. Cette position aide aussi à comprendre pourquoi les erreurs jouent un rôle productif. Elles ne sont pas seulement des échecs à effacer. Elles révèlent les hypothèses à modifier et permettent de formuler de meilleurs problèmes. Rovelli relie cette dynamique à une longue histoire, de la pensée grecque aux révolutions scientifiques plus récentes. La filiation ne signifie pas une marche rectiligne vers la vérité, mais une capacité accumulée de réviser les modèles du monde. En dernier lieu, les limites de opposition entre pensée scientifique et héritage religieux dans ses derniers développements. Le livre interroge plus largement les manières anciennes de penser le monde et contraste la recherche rationnelle avec les explications mystico-religieuses. Cette opposition rend visible ce que Rovelli valorise chez Anaximandre, une nature accessible au raisonnement, sans recours nécessaire à une intention surnaturelle. Toutefois, le sujet ne se réduit pas à une caricature entre superstition et savoir. Les traditions religieuses et poétiques ont aussi porté des interrogations sur origine, ordre du monde et limites de la connaissance. La présence finale d'un texte ancien du Rig Veda, souvent relevé par les commentateurs, signale que le doute sur l'origine du cosmos ne appartient pas exclusivement à la science moderne. Cette nuance permet de mieux saisir le propos central. La spécificité de la démarche scientifique ne tient pas simplement au fait de poser des questions profondes, mais à l'organisation de réponses révisables, argumentées et confrontées aux phénomènes. Rovelli adopte une défense nette de cette démarche contre les fausses certitudes et les explications fermées à la vérification. Le lecteur peut néanmoins retenir que la science est née dans un environnement de débat, de transmission et de transformation culturelle. Son autonomie ne suppose pas que les autres formes de pensée soient historiquement inexistantes. Elle suppose une exigence particulière envers les raisons avancées pour décrire la nature. En conclusion, la naissance de la pensée scientifique conviendra au lecteur intéressé par les présocratiques, la philosophie des sciences et les conditions historiques de la recherche rationnelle. Il peut aussi servir de porte-entrée pour des lecteurs de physique qui souhaitent comprendre comment Carlo Rovelli conçoit la science au-delà de ses résultats techniques. Son bénéfice intellectuel principal est de déplacer attention au lieu de demander seulement quelles théories anciennes étaient vraies. Il invite à observer comment une communauté de pensée apprend à formuler des hypothèses corrigibles. Les exemples de la Terre sans support et de Apeiron rendent cette réflexion concrète sans exiger de formation spécialisée en philosophie antique. Par rapport à une introduction classique à Anaximandre, le livre se distingue par son point de vue de physicien théoricien et par son ambition de relier une figure antique à la dynamique durable des sciences. Il ne propose pas une édition savante exhaustive des fragments ni une histoire systématique de la Grèce archaïque. Sa force réside dans une interprétation concentrée de quelques innovations conceptuelles et de leur portée méthodologique. Cette orientation donne au texte une clarté inhabituelle. Anaximandre importe, parce que ses réponses étaient vulnérables à la discussion, et non parce qu'elles auraient mystérieusement annoncé la science actuelle. Les lecteurs avertis pourront souhaiter davantage de débats philologiques ou de nuances sur les sources indirectes, mais pour saisir la valeur du doute, de la critique des maîtres et de l'imagination explicative dans l'histoire du savoir, cet essai offre une synthèse accessible, argumentée et singulière. Si vous souhaitez soutenir Carlo Rovelli, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.